Bienvenue ici. Ici, avec vos pieds. Ici, avec vos oreilles. Avant de commencer la balade, prenez le temps de régler votre volume sonore.
Why don't you print your name? Right next to it.
Ne vous coupez pas complètement de l'environnement sonore qui vous entoure. Vous devez pouvoir entendre clairement ma voix, mais aussi une voiture qui passe, ou la voix de quelqu'un qui aimerait vous parler. Vous y êtes ? Alors votre écoute va pouvoir se mettre en marche. Au cours des premières minutes, vous allez entendre des pas. Essayez de caler votre rythme de marche sur ces pas. Ils vous donneront le tempo de la promenade. À tout à l'heure.
Sur le quai de la halte de Croix-Sainte, côté direction Marseille. Vous voyez un abri avec un petit banc. Allez vous y asseoir, Sophie vous y attend. Alors, le voyage du Campeo pourra commencer.
Là, on est sur une gare, un arrêt ou un arrêt. Il n'y a plus de gare d'ailleurs. Mais on a on perçoit un paysage de trajet de parcours puisqu'on va de Port-de-Bouc et de l'autre côté, on voit jusqu'à la chaîne de la Nerthe qui se découpe. Moi, j'aime beaucoup cet emplacement parce qu'on est légèrement surplomb du plateau du Campeo justement. Et légèrement surplomb aussi de tout le quartier de Croix-Sainte qui est derrière. Et pourtant, tout ça fonctionne assez bien. On est en fait très près du quartier de Croix-Sainte, alors que pour Martigues, cet arrêt de train est, comme on dit, dans la pampa. Ce qu'il y a d'intéressant aussi ici, c'est la taille du territoire, je crois. On perçoit que Martigues, c'est un très grand territoire et qui a encore beaucoup d'espace, je trouve. C'est même émouvant de voir qu'on est sur ce petit coin de gare, de rien du tout, sous un abri métallique. Alors qu'au pied de nous, là, on voit les usines, les grues qui sortent, les réservoirs en face, et que les gens viennent à pied pour prendre le train, là, comme le monsieur qui est en face de nous, tout simplement. Je trouve que c'est une richesse extraordinaire, en fait, cette gare. En devenir, peut-être, mais c'est une richesse extraordinaire.
Vous allez vous lever et, toujours avec Sophie, traverser les voies pour rejoindre en face, juste en dessous, le panneau de direction Miramas, un sentier qui file directement sur le Campeo. Le Campeo.
Bande de terre le long d'eux.
Zone naturelle,
frontière,
incertaine voire indécise,
lisière,
entre ville et chenal. Vous prenez le sentier qui quitte à la perpendiculaire le quai.
Cette ligne, elle date de 1915, donc elle est antérieure à l'installation industrielle sur le chenal, ce qui est normal, hein, c'est stratégiquement important de mettre les infrastructures en amont de l'installation industrielle. Et là, hop, dès qu'on descend de la ligne, on est dans un ancien site agricole que l'on perçoit. En fait, le plateau, on n'imagine pas, mais c'est une plaine. C'est une plaine pas urbaine, bien sûr, mais c'est une plaine où on pourrait demain matin replanter. Hein. On a un grand territoire.
À la prochaine division des chemins, restez sur le sentier le plus étroit, celui de gauche.
Là, on marche sur un chemin, il y a des assez jolis cailloux, hein, bien ronds, assez gros, hein, avec cette belle couleur un peu dorée. Ils sont vraiment très beaux. C'est du poudingue qu'on va retrouver aussi jusque dans la croix, qui est assez caractéristique des collines ici, qu'on trouve quelquefois en bloc aggloméré. On dirait un béton contemporain absolument magnifique. Voilà, et c'est... Vous avez encore quelques oliviers qui sont plantés de manière régulière, qui sont restés. Les traces de tout le paysage rural.
Le sentier va bientôt rejoindre sa ligne de crête.
Sa ligne d'hypothèse.
Vous allez suivre le chemin qui va doucement tourner à droite et peu à peu observer les formes, traces, intuitions que les voies vous proposent.
Nous suivons les hypothèses.
Nous écoutons les indices.
Nous observons le paysage.
Donc c'était en fait le plateau délimiter la terre et la mer, puisque dès qu'on va arriver au bout de la ligne de crête, il faut imaginer que toutes les terres qui sont en contrebas ont été des terres remblayées pour accueillir de l'industrie. Donc c'est un projet industriel très fort de la Chambre de commerce de Marseille dès l'après-guerre, de la première guerre. Et qu'on était donc dans la fin d'un territoire rural entre deux communes, la commune de Port-de-Bouc étant une très jeune commune puisqu'elle date de 1866. Et je pense que ce territoire était relativement peu connu. Pourtant, on a retrouvé aux archives des photos de personnages endimanchés se baladant le dimanche après-midi avec ombrelle et robe longue et posant, comme on le voit souvent, pour montrer le paysage. Donc je pense que ça devait être peut-être un lieu aussi de promenade.
Il y a du bonheur ici, hein?
Ah oui, mais ça sent le pétrole.
Ah, ça sent autre chose que le pétrole. Ça sent le boulot aussi.
Alors, le maître papa sera heureux ici?
Mais oui, ma petite, on sent...
L'idée qu'on était sur quelque chose de très beau, on n'était pas sur un chenal, mais on était sur un assemblage d'étangs. Et qu'en bas, en plus, c'était un peu nauséabond, c'était des territoires plutôt malsains avant qu'ils soient remblayés. Là, on devait dominer la situation, et voilà, comme on l'est aujourd'hui. Hein. Mais aujourd'hui, en bas, il y a de la terre, il n'y a pas d'eau.
Alors moi aussi, il y a 12 ans que je repiquais de Barcelone, et je suis content que j'ai trouvé des boulots dans le pays, au moins pour les enfants.
Mais moi, je suis le fruit. Mon pays, c'est celui qui me fait bouffer.
C'est pour ça que tu es si gros.
Poser les hypothèses que l'on sait du passé, qui ont succédé à d'autres hypothèses du présent, qui permettront de travailler à des hypothèses pour l'avenir.
En tout cas, il y a des traces. Il y a des traces de chaussures et des traces d'animal. Je crois que c'est des chiens qui sont passés avec leur propriétaire. Peut-être des pêcheurs. Ah, maman. Il a 5 doigts de pied comme nous. Moi, je pense vraiment que c'est un chien. Parce qu'en fait, il a 4 doigts de pied, mais il a quelque chose ici à l'arrière, comme son talon. Et ça ressemble à un autre doigt de pied quand, sur des marques. Regardez, 1, 2, 3, 4 et 5. Il est passé par là, puis après il est revenu par là.
Dans peu de temps, peut-être maintenant, vous trouverez un grand pin sur votre gauche et une brèche dans la végétation. Nous allons ralentir et prendre notre temps. Cherchez un point de vue confortable qui vous inspire, vous intrigue, vous repose. Installez-vous et écoutons l'histoire des hypothèses. Certaines viennent de loin.
C'est en fait un vieux projet aussi. Puisque dès le 18e, la question d'utiliser cet espace un peu incroyable entre la Méditerranée et les temps de Berre, l'utilisation des temps de Berre, l'assainissement de la traversée de Martinque, c'est une question que les édiles nationales se sont posées régulièrement, que Napoléon a reposée puisqu'il a... C'est lui-même qui a imaginé la création de la ville moderne de Pornebouc en faisant des plans et en imaginant de même l'aménagement du chenal. Mais c'est le 20e siècle qu'il a réalisé. Et le premier industriel qui s'est intéressé et qui s'est installé, c'est M. Vermeck. Mais il est mort avant que son usine soit terminée. C'est une usine d'oléagineux, c'est une usine d'import-export, huile, savon. Et qui a été transformée après en Astra Calvé, qui a été entièrement arrêtée dans les années 60. La ville a récupéré, on la voit là, on voit le château d'eau assez étonnant là en béton. Il reste encore de cette usine le silo, une partie du silo au bord du chenal et l'ensemble des grands magasins de stockage. Mais on sent quand même que c'est un site industriel qui n'est pas entièrement requalifié. Mais il n'est absolument pas mort. Hein. Il y a une vitalité extraordinaire. Hein. Sur Croissante, il y a Croissante Industrie. C'est là où il y a le groupe F qui est installé. Enfin, je dirais le côté friche industrielle, il a une forme de vitalité. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes formes de paysage industriel qu'on peut avoir de l'autre côté avec l'industrie pétrochimique. Là. On est quand même sur des formes qui sont plus archaïques, plus traditionnelles. Voilà, et là, il faut imaginer donc les étangs avec des vases, avec des zones plus ou moins voilà, arrivées jusqu'en pied avec des dessins de côtes pas très précis. Et tout un système de cèdres qui sont et la réalisation après de salines qui ont bien intelligemment occupé ce territoire entre eau salée et eau douce avec une faible profondeur où on a donc pu utiliser le sel pour l'industrie.
Tu fais une boule, après, y a un lapin... Ah, là, par exemple, il y a un lapin. C'est des traces de lapin ou de petits sangliers. Et ben, quand il va mettre sa patte là-dedans, ça va le gêner, il va essayer de l'enlever, il va se concentrer seulement sur la boule et c'est là où tu peux l'approcher. Il faut les faire un peu grosses. Et il faut surtout pas qu'elles soient secs. Parce que sinon, ça marche plus. Il faut bien la faire ronde pour faire croire que c'est un galet ou une pierre.
Reprenez votre marche, toujours à la lisière. Tout en écoutant, repérez les usages et les ressources des lieux.
Ce que je trouve intéressant dans ce territoire qu'on est en train de traverser, c'est qu'il y a des temps longs entre la fin d'une activité et la reprise du territoire de manière structurée.
Quand vous croisez ou vous rapprochez des chemins plus larges tracés par les motos ou les squads, laissez-les tracer leur route. Restez sur le petit sentier qui marche.
Et ce temps long permet, quand il n'y a pas une situation dramatique, on va dire, où tout brûle, où ça devient un lieu négligé, on s'aperçoit qu'on est dans une zone qui est pas facile, hein, et pourtant le caractère champêtre du paysage est entretenu par les tracés des gens. On ne voit pas de bouteilles, on ne voit rien. Enfin, je veux dire, on ne voit pas d'usage qui ne soit pas respectueux de ce qu'on a. Et sans que les gens sachent ce que ce lieu va devenir aujourd'hui. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et ce temps-là, c'est rare qu'on l'ait. On veut tellement aller vite aujourd'hui pour occuper le territoire, pour dire ça, ça sert à ça, ça, ça sert à ça, que ces espèces d'entre-deux, là on est entre deux villes, on est entre deux territoires, le territoire de l'autre côté de la ligne de chemin de fer avec tous les quartiers d'habitat social, les quartiers groupés, le port de boue qu'on voit qui remonte vers Saint-Macaire et le quartier, le site industriel qui appartient aujourd'hui au grand port de Marseille. Et bien cet entre-deux, il est sain, il est clair, il est partagé et il n'est pas mal occupé. C'est une chance.
Qui est passé. Ça se voit parce qu'il y a des traces et deux qui sont à côté.
À la croisée des chemins, prenez le sentier de gauche qui toujours suit et surplombe le chenal.
Chasseur, j'ai peut-être trouvé des cartouches. Je pense qu'il peut aussi y en avoir des gens qui peuvent s'allonger par ici, dans les hautes herbes, pour tirer sur les oiseaux. C'est par là.
Maintenant, plus d'erreurs possibles. Nous marchons droit devant, nous nous élevons et filons vers la mer.
C'est un endroit bien pour jouer parce qu'il y a beaucoup de végétation, parce que c'est calme, plus ou moins, puis parce qu'il y a de l'espace. L'espace, c'est bien pour jouer.
De quelque chose et ce cœur est un vide et c'est pas tout à fait un vide, en fait il est plein de ce paysage qui se transforme tranquillement à son gré. Les genêts poussent, les pins poussent tranquillement, le chemin continue parce que tout le monde y passe et c'est un vide qui est plein, à mon avis, qui est plein de ce qu'on y fait nous.
Mais si tu veux jouer par exemple à cache-cache, c'est un bon endroit. Ou si tu veux jouer à des jeux où tu peux te cacher, c'est un bon endroit parce que la végétation, ça te cache beaucoup. Tu peux te cacher des Indiens et tout et tout. Si on enlève tout ça et qu'on en fait qu'un petit village par ici, Ça fait bien cow-boy parce qu'il y a beaucoup de végétation, comme dans le temps des Far West. N'enlevez pas beaucoup. C'est un peu humide vers les petits villes, près des villages, c'était humide. Et qu'il y a des traces, comme si tu suivais des pistes. C'est aussi un peu rochu. Tu peux trouver ça dans le Far West. Là, par exemple, si j'ai envie, je peux poser ma boule ici. Et peut-être que plus tard, il y aura un lapin. Il fera ça. Hop, il pourra plus trop partir.
C'est les fans, ton lapin, tu sais.
Mon lapin.
Et ouais, celui que tu as porté hier. Celui que t'as donné Sébastien. Encore une fois, je me casse une dent. Hein. Il doit avoir fait les poids et haltères. Parce qu'il est un peu dur. Hein.
Soyez maintenant vigilant, observateur. À votre gauche, vous allez bientôt repérer quelques ruines, un muret arrondi, un ancien moulin qui attend. Quand vous apercevez les ruines, rejoignez-les. Installez-vous. Le moulin sera à la fois votre point de vue, votre assise et, s'il y a du vent, votre protecteur. Si vous avez envie d'explorer le plateau alentour, allez-y. Mais ne vous éloignez pas trop. Le retour se fera par le moulin.
Je trouve qu'on a la plus belle vue sur l'embouchure du chenal de Caronte, sur le port pétrolier, sur tous les réservoirs en face, sur la colline. Et là, on voit assez bien, parce qu'en plus, récemment, les industriels ont coupé les pins qui s'étaient installés depuis les années 30 entre les bacs blancs qu'on voit là au milieu à mi-hauteur de la colline en face et la route qui longeait avant le bord de l'eau et qui maintenant est à 200 mètres du bord de l'eau. Et tous les pins ont été coupés et du coup ça permet de mieux comprendre la manière dont on s'est installé sur ce territoire. D'abord les carrières, et la route était la route qui permettait d'accéder aux carrières, et puis après le changement, la rupture industrielle de ce côté-là, et l'arrivée de l'industrie en 1930. Alors que là, on comprend réellement qu'on est sur un tracé qui a été fabriqué, quoi. On est sur du paysage fabriqué, paysage industriel, mais qui s'est installé sur un autre, qui a utilisé les transformations qui a été faites avant lui. Et là, pareil, ce premier plan très plat qu'on voit, la version un peu camarde avec des salicornes, des genêts, c'est aussi un site industriel sur lequel est prévu d'autres installations industrielles et sous laquelle il y a toutes les réserves de géogaz sur plusieurs étages. Donc on est, étonnamment, l'industrie, là, ne se perçoit pas dans toute sa réalité.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 31. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 cheminées.
Taille, grosseur, il y en a des plus grandes, des plus grosses.
Couleur.
Couleur. Matière. Et il y en a des qui sont pas en usage.
Thank you.
Je trouve que le seul fait qu'il reste les traces de ce moulin, ça marque, ça donne le fait qu'il, voilà, ça nous montre que les deux peuvent fonctionner ensemble. Qu'on peut à la fois être trace d'un paysage agricole utilisé pour la balade, utilisé comme point de vue, et on peut être et on peut faire avancer aussi l'industrie et la et l'installer dans le territoire. Les deux peuvent fonctionner ensemble. L'installation industrielle donc a démarré dans les années 20 avec le projet de la chambre de commerce qui a continué à se développer avec l'ABP, Nafta Chimie, dans les années 50, et l'extension et la création d'un port pétrolier qui est né, qui était prévu dès l'avant-guerre, mais bon, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale ayant mis un arrêt sur l'industrialisation de ce secteur, je dirais que ce temps de 4 ans ou 5 ans pendant lequel tout projet industriel a été arrêté par l'État, à l'inverse, a fait un effet où l'installation industrielle est allée très vite après, comme si on devait rattraper le retard qu'on avait pris dans le siècle. Et donc, dès 1948, il y avait le projet du port pétrolier avec toutes ses darses. Et on voyait très bien la manière dont les industriels avaient prévu de redessiner l'étang de Caronte pour le transformer en réellement un grand port avec toutes ses ramifications et surtout tout son site industriel en arrière du port de Caronte. Puisque c'est un ensemble hein, entre le port pétrolier et la pétrochimie, on est sur un même site, ils sont en relation permanente.
Je vois qu'un gros bateau là-bas, mais c'est nous. Et un géant pont. Sinon, je vois des containers en bas. Des sortes de containers, des sortes de camions. Ben, je vois des sortes de wagons avec un gros truc dessus. Sinon, je vois des sortes de grosses cheminées. Ça sert pour les usines.
Ces usines, on ne sait pas ce qu'elles font.
Je vois rien d'autre.
Ça peut pas être des poissons parce que sinon à quoi ça servirait une grue?
Je sais pas.
C'est des déchets parce que ça a plusieurs couleurs et que ça a des grosses tailles des fois.
Il faut avoir un regard pas que technique sur le territoire industriel. C'est, je dirais même aussi un regard un peu poétique parce que c'est à partir de regards qu'on porte aujourd'hui sur ce territoire industriel qu'on pourra fabriquer d'autres projets tout aussi économiquement valables, tout aussi importants pour la société et qui prendront en compte toute la valeur de l'histoire. L'histoire industrielle, l'histoire de la pêche, l'histoire des carrières, l'histoire agricole, toute l'histoire militaire puisqu'il y a le fort au milieu, toute la force de l'histoire urbaine aussi puisque le XXe siècle à Martigues et Port-de-Bouc ont été faites des expériences urbaines sur l'habitat social, sur l'accueil de nouvelles populations qui sont parfaitement dignes, intéressantes et qui restent remarquables dans leurs projets architecturaux et sociaux. Donc tout ça, ça fabrique de la mémoire pour fabriquer autre chose.
Blanche usine au clair du soleil, L'impossible est le produit de la pollution. Et ce n'est pas de votre faute. Vous aimez bien faire autre chose. Vous avez déjà eu le vue sur le bas.
Les terrains du bord du chenal appartiennent au grand port de Marseille. Donc ils sont sur on est sur ce qu'on appelle pour le grand port de Marseille les bassins ouest. Et Martigues est la première étape et ce sont tous les territoires de Fos-Port-Saint-Louis où on a le très grand territoire industriel du port où se font on va dire 90% de l'activité portuaire du grand port de Marseille. Et donc c'est une histoire assez complexe. On a des impressions un peu de... C'est pas tout à fait fini, on va dire. On parcourt des territoires au bord de l'eau, je crois qu'ils ont l'air un petit peu abandonnés. Alors qu'il nous semble... Alors c'est bourré de contraintes, hein, on est dans des territoires très complexes. Il y a des contraintes de sécurité, il y a des réseaux, on est... Voilà. Mais pour le promeneur moyen, il se demande pourquoi on abandonne ce site. Il ne sait pas qu'il y a toute cette complexité. Le seul qui s'y retrouve comme usager, et qui est un usager qui est très 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 présent sur le site, c'est le pêcheur. Parce qu'en période où il y a le passage du poisson, on a sur 6 km entre le fort de Bouc et le centre de Martigues compris, on a un pêcheur tous les mètres. Et ce, 20h sur 24. Donc ça vous... Et même dans les sites industriels où ils ne sont pas franchement bien accueillis. Alors, cette question du Bosphore, en fait... Et toujours cette question de lumière, de rapport à l'Orient qu'on retrouve dans les écrits. Et on a travaillé une dizaine d'années avec les représentations de Martigues. Et là, on est tombé par hasard en demandant à la directrice des archives qu'est-ce qu'elle avait comme élément cartographique pouvant parler du rapport de la ville avec l'Orient. Parce qu'en matière de tableaux, on avait les Ziem, puisque Ziem, lui, s'était installé au bord du chenal de Caronte, puisqu'il a passé 2 mois de sa vie à Istanbul, et il a peint des tableaux d'Istanbul pendant 15 ans. Et on a retrouvé une carte dans une délibération du conseil municipal de 1850, délibération qui avait trait à la recherche du meilleur tracé pour la ligne de chemin de fer prévue en 1850. Hein. Je rappelle qu'elle a été construite en 1915. Donc il y a eu quand même 2 générations de recherche sur où je fais passer le train, à droite, à gauche, avant que... T'es pas très en avance quand même. Il y a un personnage facétieux, je suppose, qui avait en toute simplicité barré à l'encre rouge les noms de Martigues, étang de Caronte, étang de Berre, mer Méditerranée, pour les remplacer par Constantinople, Bosphore, mer Noire, Méditerranée. Et on avait trouvé ça stupéfiant. Et je me suis dit, c'est quand même deux signes, le signe du peintre, de l'artiste, et puis quand même là, pas tout le monde avait accès à cette carte, donc c'est quand même quelqu'un qui s'est permis de faire cette intervention, et le document est resté en mairie, donc j'ai trouvé ça assez intéressant pour me poser la question réelle et aller voir sur place qu'effectivement, on était sur les mêmes champs de lecture de paysages et que en fait aujourd'hui le Bosphore et le Chenal de 40, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ont aussi la même fonction, c'est-à-dire qu'on a, on est comme un Bosphore en miniature, et les paquebots sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, l'échelle de nos paquebots quand ils traversent Martigues, c'est étonnant. Tout le monde reste bouche bée quand on voit les paquebots, le pont qui se lève, et les deux bras qui pont qui se lèvent, qui se mettent au garde à vous, et ces énormes tankers qui traversent pour aller à la Med ou à Berre avec des no smoking hauts d'1m50. C'est vraiment un paysage ambulant rare et qui fait partie de notre vie de tous les jours et que c'est le seul moment peut-être où les deux systèmes se croisent. Moi je trouve que cet imaginaire oriental, il est à cultiver entre guillemets, en tout cas il est encore une richesse en plus, une manière d'ouverture, c'est comme une ouverture de Martigues vers le monde. Cet imaginaire où on a à la fois l'Orient avec ses couleurs, la présence de l'eau, la Méditerranée, ce territoire un peu entre les deux terres. Enfin, on le retrouve aussi, je dirais, dans la version industrielle, au soleil couchant, donc en ayant un petit peu, il faut cligner les yeux, eh ben, on retrouve des formes, une mutation de l'industrie qui devient un peu fantastique, qui se met une parure d'or, là, un peu orientale, et sous certains aspects, on retrouve Istanbul. On retrouve des formes rondes et on retrouve des torchères qui sont des formes comme des minarets, comme des éléments.
Mais vous regardez, t'es des anciennes âmes, c'est la musique. Mais au moins, vous êtes là, et vous existez.
Nous repartons. Nous allons pour un temps revenir sur nos pas, reprendre le sentier vers la droite. Mais ce même parcours n'est pourtant pas identique. Passer de l'autre côté de l'écoute. Essayez de relier ce paysage et ses hypothèses au vôtre, à vos souvenirs d'enfant qui a peut-être connu quelque part un campéo, un espace d'entre-deux, un terrain d'aventure. Au fil du chemin, cherchez les cartouches usées, les pierres qu'on a envie de ramasser, les traces d'animaux, d'indiens et de personnages imaginaires. Repérez les cabanes et les forêts joueuses. Invitez vos souvenirs à marcher avec nous.
Là, il y a les rails abandonnés. Elles sont abandonnées, celles-là.
Bientôt arriver.
aussi. Il n'y en avait pas un peu beaucoup là.
Quand vous arrivez de nouveau à la croisée des chemins, laissez sur la droite le sentier que vous aviez suivi à l'aller. Continuez tout droit sur le large chemin dont on devine qu'il est souvent pratiqué par les motos.
Un chemin qui pourrait nous ramener un peu près sur le bon chemin. Mais sinon, je suis à peu près le trou qui fait le chemin. Comme ça, j'arriverai au même endroit que si on avait pris le chemin. Vos souvenirs vont tout doucement glisser sur la pente et venir rejoindre les souvenirs des habitants d'ici, les habitants du Mas de Poigne, l'ensemble d'immeubles blancs qui se dévoilent au loin à votre gauche.
C'est pratiquement à la limite entre Martigues et Port-de-Bouc. Port-de-Bouc, c'est une autre ville. Voilà, ici, il y a le Mas de Poigne, après, il y a quelques villas, c'est le quartier Saint-Jean, et après, c'est Port-de-Bouc. Donc, c'est à la sortie de Martigues, on va dire.
J'aime beaucoup ce point de vue sur le quartier de Croix-Sainte, Mas de Poigne, parce que je trouve que c'est le seul endroit où on lui rend vraiment ses lettres de noblesse. C'est-à-dire que quand c'est un quartier qu'on a construit dans un champ de betteraves dans les années 60, dans la continuité, on va dire, du site de Croix-Sainte, on a mis un petit peu à l'écart du centre-ville, 350 logements, et il est coincé entre la route de Port-de-Bouc et la RN 568, qu'on utilise entre guillemets comme une autoroute pour aller vers Fos-sur-Mer. Donc il n'a pas de respiration urbaine. Et là, quand on le voit d'ici, on voit derrière en plus la colline qui est couverte d'oliviers d'un propriétaire terrien d'à côté. Là, on voit le château d'eau. Et puis on voit cet ensemble immobilier clair, sobre. Bon, il n'y a pas une créativité extraordinaire, mais entretenu, avec des arbres au premier plan, à côté d'une gare. Mais d'ailleurs, les habitants du quartier viennent ici se balader. Voilà. Eux, ils en sont conscients. Mais on le donne pas à lire. Voilà. Mais ce n'est pas très grave. Hein. C'est bien aussi d'avoir des secrets comme ça. Des terrains d'aventure pour quartier que personne ne connaît.
Nani, Zouzou, Nora, Jaïda, Magali, Siem, Laetitia vivent là depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis toujours. Elles aiment parler, elles aiment rire, elles aiment raconter. Alors nous allons chercher encore un grand pain, à l'intersection avec un petit sentier qui se trouvera bientôt à votre gauche, et nous installer pas trop loin. À l'ombre s'il fait chaud, au soleil s'il fait froid, pour les écouter. Merci les filles, c'est à vous.
Là, c'était Madame Aragon. En haut, c'était Madame Hautain. Là, c'était Madame Frézari.
C'est un quartier vieux quand même. Hein. Oui, il a plus de 30 ans, hein. Il a même plus de 40 ans, je crois. Ouais. Et non, c'est 50 ans qu'il a. On va faire ses 50 ans cette année.
En haut, c'était Di Maria.
Madame Marie, c'était un monument.
Ah, c'est le monument, ouais. Après, il y a eu la famille Saïd. Après, en haut, la famille Saïd, il y avait la famille Ambrave.
Je devais avoir une dizaine d'années quand je suis arrivée ici. Il me semblait que c'était tous les mêmes bâtiments. D'ailleurs, on se perdait souvent. Il y avait une école annexe là-bas en préfabriqué. Voilà, il n'y avait pas l'école Henri Tranchet, tout ça, il n'y était pas. Il y avait la vieille école en haut. Voilà, donc il n'y avait pas l'école là. Bon, là, il y avait tous les magasins quand même.
Et en haut, la famille Maggio, il y avait Maggio. Après, il y avait Vela au dernier étage. Il y avait Amaza, Scotto, Frézari et Aragon.
Mais bon, on était nombreux, il y avait beaucoup de familles nombreuses. Donc nous, il nous semblait que c'était animé, il nous semblait que c'était vert, même s'il n'y avait pas beaucoup de verdure. Parce que les arbres, ils venaient juste d'être plantés. Mais bon, nous, il nous semblait que c'était bien. Moi, en plus, j'arrivais de... Nous, avec mes parents, on habitait dans une cité Emmaüs, cité d'urgence qu'on appelait. C'était des petites maisons. Alors nous, on était heureux d'arriver dans un bâtiment où il y avait beaucoup de monde, on était contents. Et donc, on est arrivés là, il y avait beaucoup de familles de pieds noirs quand on est arrivés. Donc, on parle presque tous arabes. Mais nous, moi, ma mère, elle était à l'école ici. Mon père, il est arrivé en 56. Voilà, donc ça fait... Moi, je suis allée en Algérie qu'en 2009, alors. Ah, les filles!
Alors, le mas de Poigne, c'est... Ça porte bien son nom, hein, c'est... Paraît-il. On ne le sait pas vraiment de source sûre, mais bon, ce qu'on en sait de ce que les anciens peuvent raconter, c'est que c'était un vieux mas sur lequel a été construit en 1962 une cité d'HLM qui était au départ destinée pour les rapatriés d'Algérie. Finalement, compte fait, il n'y a pas eu que les rapatriés d'Algérie, il y a eu aussi quand même toute la population maghrébine qu'on a fait venir massivement parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre en France et donc qui ont aussi, eux, pu se loger dans cette cité. Alors c'est vrai que cette population maghrébine, elle était peut-être bien avant 1962 dans les cités d'urgence de Martigues, comme ailleurs dans toute la France, mais quand même ils ont pu aussi accéder à un logement décent. Il y avait effectivement ces deux communautés-là, et puis autour, il y avait aussi des Martégots, il y avait aussi des pieds noirs, qu'on appelle les pieds noirs tunisiens, qui habitaient dans le centre-ville et qui attendaient le logement. J'avais ma tante qui habitait au numéro 15. Donc je disais la dernière fois qu'on venait, il y avait un transfo juste à la place du local à poubelle. Et quand on arrivait là, de loin, il n'y avait rien. Donc on voyait, on disait c'est là qu'on va. Voilà. On venait les dimanches en famille, après on partait à pied et il y avait des jardins. Voilà. Et donc on allait passer la journée au jardin. On cuisinait, on ramassait les fruits, on était contents, on était dehors. Ici, ça me paraissait grand, c'était plus neuf, parce que moi, le quartier, le mien, il date de 58. Donc, celui-là, 63. Donc, et nous, on avait les maisons d'urgence, c'est un vieux quartier de Martigues, en fait. Voilà. Mais ici, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de monde. C'était loin pour venir jusqu'ici. Et voilà, c'était toujours la fête. C'était le bout du monde pour nous quand on était petits, c'était loin.
Ce quartier, d'abord, il est très excentré du centre-ville. On a vraiment l'impression que c'est un village dans la ville de Martigues. Donc c'est vrai qu'il y a eu très rapidement, de par la dureté de la vie à l'époque, il n'y avait pas de bus, c'était pas facile, il n'y avait pas de téléphone, Donc rapidement, il y a eu des solidarités entre les gens, même s'ils n'étaient pas des mêmes origines ou des mêmes cultures. On a vraiment senti qu'il y avait... on a vraiment senti... Les gens le racontent, on parle de grande solidarité qu'il y avait sur le Mas de Poigne. Cette cité, en fait, d'abord, c'est des familles très nombreuses, et il y avait toujours une maman qui pouvait s'occuper de son enfant, mais qui s'occupait aussi des enfants des autres.
Perno sti vint'anni di tormento col cuore sempre in guerra notti e giorni.
Nous, on a été une majorité de femmes qui étaient seules. Hein.
Oui.
On a levé nos enfants seules.
Oui,
on a eu beaucoup de drogués aussi. Les premiers morts du sida, c'était ici, chez nous. Hein. D'abord, nous, on a fait tout en premier.
C'est-à-dire, c'était dans les années...
Même le gala de la couture, c'était nous le premier.
Les premières, hein. Voilà, c'est la vérité.
Alors nous, je vais vous expliquer. Moi, j'habitais là où il y a la parabole. Et mes cousines, elles habitaient en face. Ça, c'est le bâtiment 15. Et mes cousines, elles habitaient au 38. Quand on voulait se donner rendez-vous, il n'y avait pas de téléphone avant. On s'appelait par la fenêtre. Ou si on voulait se prêter un tricot, si on voulait la pince à épiler, si on voulait... Alors on criait « Ah ! Ah, on va !»
Téléphone arabe, hein, que maintenant, il s'est fait ressortir. Mais... mieux. La première fois où Ninou et Michel Ladrière, qui habitait à ta place.
Oui,
parce que nous, on est venus avant vous. Hein, là.
Parce qu'on était amoureux de ceux qui habitaient en face.
Voilà,
c'était logique.
Et leur code, qu'est-ce que c'était ? J'allume et j'étais pour descendre. On ne pouvait pas parler devant les parents à l'époque. Donc j'allume et j'étais. Et nous, pour dire avec la copine, tu viens, on va fumer la cigarette, ta, par le radiateur de la cuisine. Ou pas. Oui.
Et tous les couples,
ta, hop, on descendait. Bon, maman, je vais jeter la poubelle.
Ça fait 70 ans que je suis ici.
À Croix-Sainte ?
Pas à Croix-Sainte, à Martigues.
Mais elle habitait là-bas.
Ah ouais ?
Oui, à Croix-Sainte.
Mais oui, c'est la mère Alali.
Oui.
C'est la mère Alali, elle.
Oui, j'habitais au 37.
Au 37 ?
Oui. À côté de ma famille.
Sur
Fougali,
c'est vrai. J'avais ma copine Anna et Rose. Parce que moi, je me rappelle dans Santiago, quand elle est venue, au 29.
Je connais. Elle est la nana de la bébé.
Madame Santiago, elle a fait comme nous. Elle est arrivée au 29, oui, après, vous êtes
au 15. Au 29, après, je suis partie au 15. Du 15, je suis partie au 33.
Voilà.
Du 33, je suis partie ici. J'ai fait tout pour ça. Et bien, va. Mais là, il y a.
La meilleure photo, voilà.
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 Oui, voilà.
Y al pie de un rosa dormi. Rosa, tuve por cama.
Tinora, tu sais, alors ne fais pas la fadade.
Non, son père ne travaillait pas la terre.
Ah oui,
c'était
c'est
son
vrai.
Oncle qui travaillait.
C'est son oncle, ton oncle. Eh, ouais. Donc, c'est pour ça. Oui, ton oncle, pardon, c'est vrai. Mon père, il a travaillé. Monsieur Ambram a travaillé là-bas. Le sieur.
La machine, le sueur, la sac à lever, le savon et l'huile. Et oui, c'est vrai, la cacahuète. Et la cacahuète, voilà. Nous, ici, on avait l'huile, le savon de Marseille hein, et la cacahuète. Et ouais, on est pour export de là. Hein.
Ça, ouais, c'était, ça et la ville, ils étaient tous balayeurs. Bon, les Arabes étaient tous balayeurs. Mon père, le premier.
Ah, pas spécialement que les Arabes, mais fait tous les...
Ah, oui, d'accord. C'était que les Arabes qui étaient aux
oui,
poubelles.
Mais, oui,
aux poubelles et aux, même à l'époque, moi, je me rappelle,
les Espagnols,
il y avait les dinettes
ouais,
et tout
voilà.
Ça.
Là. Beaucoup, hein, y avait
les Espagnols, ils étaient plus maçons, tu vois.
Il y avait M. Guidou.
C'est vrai.
Ils étaient plus maçons, les Espagnols. Il y avait mon beau-frère, M.
Oui, il y avait Monsieur Fougali.
D'ailleurs, ils ont eu la médaille. Hein.
Ouais. Il y avait Monsieur Fougali, Monsieur Aikous, Monsieur Annie.
Ouais. C'est avec vrai.
Il y avait mon père.
C'est vrai, c'est vrai. De balayeurs ici.
Oui, 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 oui.
Des gens qui travaillaient pour la ville sur le service d'une histoire.
Ouais, ouais, ouais.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Les maçons, c'était beaucoup les Italiens et les Espagnols.
Voilà. Et les pieds noirs, c'était surtout. Eux, c'était plutôt. Ils conduisaient plutôt le camion.
Pas lourd.
Voilà, voilà. De la poubelle.
Voilà. Non, non, mais même Monsieur
derrière, mais eux, ils conduisaient le camion.
Monsieur Di Maria.
C'est vrai, Monsieur Gradel, il conduisait le camion.
Oui. Voilà, et oui, voilà. Voilà. Et oui, c'était ça, va, c'est vrai.
Oui.
L'espagnol au volant et l'arabe derrière. Mais c'est vrai, c'est comme ça.
Les contre-mètres voilà. Autour, c'était les pieds
parce
noirs.
Parce que
ce qui était dedans, c'était les magasins.
Voilà, c'est vrai. Non, mais c'était comme ça, hein, voilà, je veux dire. Voilà.
Qu'est-ce qu'ils étaient robustes, ces magasins.
Non, et puis quand ils sont.
Ouais, ouais. Non, mais c'est
vrai qu'ils étaient très conditionnés. De toute façon, ils
avaient pas Non, et puis on avait le droit de rien. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, même jusqu'à maintenant, allez, on va le dire jusqu'à maintenant. Quand tu as un nom de bico, tu peux pas te déménager comme tu as envie. Tu n'as pas intérêt de te disputer avec les voisins.
Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas? À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur.
Je me présente, voici. Je m'appelle Larry Mamadou Juan et faites place. Guido Henri, Gino Ali, je ne suis pas de glace. Une voix m'a dit marathon, cherche la lumière du gouffre. J'ai épuisé un combat, la bonne affaire, j'en ai bavé. De la peur que j'ai lue dans les yeux de ceux qui ont trois fois rien qui le croyaient précieux. Quand j'ai compris la loi, j'ai compris ma défaite. Intégrez-vous, disait-elle, c'est des choses faites alors.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur. Le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur.
Toujours accompagnés des voix du Mas de Poigne, nous allons reprendre la promenade en suivant le sentier qui se dirige vers les rails, puis tourner à droite à la prochaine intersection pour suivre en parallèle la voie de chemin de fer. Nous tournons à droite au prochain croisement.
Alors, ma soeur,
ah, ah, ils t'ont pas dit.
Non,
ils vont jouer. Alors, écoute-moi, voilà le gold de l'équipe des Gazelles. Voilà les joueuses. Voilà. Alors, il y a Nora, il y a Souad, il y a elle, il y a sa fille. Écoute-moi, mercredi, faut y
celui-là, moi aussi, je suis pas bon gars.
Le 6 juin.
Le 6 juin.
Mercredi, 6 juin.
Voilà le gold. L'équipe, ça
va. Avec une chose,
on va partir. Les plus jeunettes du quartier.
Gazelle. Moi, je vais trouver une chose, ça, ça va rebond.
Voilà, sur le Mas de Poigne, il y a eu quand même l'implantation d'une usine qui est très très ancienne. D'abord, c'est une usine de fabrication d'huile où nous, quand on est remonté l'histoire un petit peu, il y a quelques années en arrière, il y a des archives qui montrent quand même ces grands bateaux qui viennent d'Afrique chargés de graines. Il y a encore le silo à grains qui est visible quand on prend le chenal de Charente. Et puis ce pont qui tourne, le pont de Charente qui tourne, voilà, quand les bateaux passent, il y a le pont de Charente où il y a le chemin de fer qui relie Marseille à Miramas. Bon, voilà, c'est quand même un quartier vraiment, vraiment chargé d'histoire. Et moi, j'éprouve beaucoup de... Plus ça va dans les années, bon, c'est vrai que je pourrais effectivement partir travailler ailleurs parce que bon, la difficulté sociale des personnes peut être usante dans les métiers d'animateur. Ben voilà, je me régale avec ces femmes-là, c'est un métier que j'aime et que j'ai à cœur à le mener au Mas de Poigne parce que c'est vraiment un quartier chargé d'histoire. Vraiment, ce sont des femmes qui sont... parfois, il y en a certaines d'entre elles qui sont limite philosophie, quoi. Et donc, moi, mon travail, en fait, ça me donne envie de mettre en valeur tout ça. Tout le temps, au quotidien, dans tout ce qu'on fait, j'essaye de le valoriser pour qu'elles vraiment, prennent vraiment conscience de la richesse qu'elles ont d'être habitantes d'un quartier comme celui-là. Même si c'est un quartier populaire.
Nous nous rapprochons de notre point de départ. Vous reconnaissez les lieux, la gare au loin sur votre gauche.
Hey,
du bonheur ici, hein.
Ah oui, mais ça sent le pétrole.
Ah, ça sent autre chose que le pétrole. Ça sent le boulot aussi.
Alors, la mère, tu crois qu'on sera heureux ici?
Mais oui, ma petite, on sera heureux.
Au niveau de la gare, en face de vous, vous apercevrez légèrement en hauteur une sorte d'échelle, une balustrade comme les échelles pour entrer dans le bassin d'une piscine. Allez la rejoindre. Montez le petit talus. Nous sommes arrivés. Le bassin est devant vous, vide ou plein de tous ces souvenirs du Campeo. Ceux des ouvriers du chenal, ceux des enfants qui y jouent, ceux des habitants qui y voisinent, ceux des marcheurs qui s'y promènent, des chasseurs qui y chassent, des motards qui y roulent, des aménageurs qui osent ici poser la friche comme une hypothèse de travail, une hypothèse au travail, pour laisser le temps œuvrer et renseigner. Maintenant, à vous de choisir votre hypothèse. Vous pouvez continuer votre exploration du bassin et du Campeo, reprendre le train vers Marseille ou Port-de-Bouc, mais aussi descendre au bas de la petite rue de la gare. Vous trouverez juste en face la cité du Mas de Poigne et le centre social Jacques Mélie. Et une chose est sûre, c'est que si vous suivez cette hypothèse, vous y serez bien accueillis et poursuivrez les rencontres. Vous venez d'écouter le Campeo, une promenade sonore de Julie Demeure, avec Sophie Bertrand de Balanda, les femmes du groupe Café Convivial du Centre Social Jacques Mélie, Aria Kateb, Rio et Anton. Remerciements à Camille Bertrand-Hardy. Réalisation et mixage, Tony Regnault.
Vous voilà de retour ici. Vous pouvez retrouver d'autres promenades sonores sur le site www.promenade-sonore.com. Les promenades sonores sont un projet de Radio Grenouille Euphonia en coproduction avec Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture, avec le soutien de la SACD et du programme Service numérique innovant du ministère de la Culture et de la Communication.